בוקר טוב, פרשת ויקהל et Shabbat para. Parashat Vayakhel, un don, qualité ou quantité? Des commentaires rédigés par le Rav David Pitoun pour Alakha Yomit. Vehan Nesi'im, Hevi ou Et Avne HaShoham, Et Avne HaMilu'im, La Efod Vela Hoshen, un pasouk tiré de notre parasha, Shemot Pereklamed, He Pasouk Rav Zain, les princes amenèrent les pierres de Shoham, ainsi que les pierres à insérer pour le Efod et le pectoral. Le Shoham est une pierre précieuse. Le Kohen Gadol portait sur sa poitrine le pectoral, le Hoshen, avec le Efod dans lequel étaient insérées 12 pierres précieuses. Les matériaux de grande valeur étaient d'une grande nécessité dans le Mishkan, l'or, l'argent, les précieuses étoffes, ainsi que les pierres précieuses. Mais ce qui était le plus précieux dans le Mishkan, c'était les fameuses pierres du Ephod que portait le Kohen Gadol sur sa poitrine. C'est justement ce qui éveille l'étonnement. Pourquoi la Torah mentionne-t-elle en dernière position la contribution la plus importante pour le Mishkan, à savoir ces fameuses pierres du Ephod que les princes des 12 tribus d'Israël ont offert personnellement? Au contraire, il aurait été plus logique qu'une contribution aussi importante occupe la première place dans l'ordre de citation des diverses contributions matérielles offertes au Mishkan. En réalité, cette remarque a été déjà retenue par l'un de nos plus grands commentateurs, l'auteur du Or HaHaim HaKadosh, Alav HaShalom Rabbeinu Haim Ben Attar, Zechatadoui Kadosh Vracha, qui vivait en Eretz Israël au XVIIIe siècle. Il explique cette ambiguïté au moyen d'un enseignement du Midrash dans lequel on demande comment les princes des tribus se sont-ils procurés des pierres aussi précieuses dans le désert, endroit où rien ne pousse. Et le Midrash répond grâce à un verset, un pasouk de Michelet, qui dit la chose suivante: Nesi'im veruach vegeshem ayin ish mithallel bematat shaker. Des nuages et du vent, mais point de pluie. Tel est l'homme qui fait grand bruit de ses dons illusoires, dans Michelet perek rafé pasouk yud dalet. Or, dans ce verset, le terme qui désigne les nuages est Nesi'im, le même terme que l'on utilise pour désigner les princes d'Israël. Voici donc le sens du pasouk de notre paracha cité tout au début de nos propos. Les Nesi'im, les princes, amenèrent les pierres. Les Nesi'im dont il s'agit ici représentent les nuages protecteurs qui accompagnaient les Béné Israël en permanence. Ce sont donc ces nuages qui apportèrent de façon miraculeuse les pierres précieuses aux portes des tentes des princes de tribus qui les offrirent ensuite au Mishkan. Selon cette idée, le Or HaHaim HaKadosh poursuit en disant que c'est justement pour le fait de ne pas s'être investi dans l'effort de la mitzvah de contribuer au Mishkan que leur contribution n'est citée qu'en dernier parmi les contributions au Mishkan. Tout ceci uniquement parce qu'Hachem n'évalue pas le don selon sa taille, mais uniquement selon l'effort investi par le donateur. Les princes de tribu ont quand même bénéficié d'un miracle considérable, puisqu'il n'est pas donné à chacun que l'on fasse parvenir des pierres précieuses jusqu'à sa porte. Il est évident qu'ils n'ont bénéficié d'un tel miracle uniquement grâce à leur grande droiture aux yeux d'Hachem. Malgré tout, dans le domaine de l'importance des donations pour le Mishkan, une telle contribution sans effort de la part du donateur est considérée par Hachem comme la moins importante. C'est pour cette raison qu'à plusieurs reprises, la Torah a rattaché la générosité à la pensée du cœur, Nedivut Lev, car aux yeux d'Hachem, la générosité est indissociable du cœur. Nous savons qu'en général, on est toujours plus attaché à une chose qui nous appartient, même si elle est sans prétention particulière, plutôt qu'à une chose d'une plus grande valeur matérielle, mais qui ne nous appartient pas. Rotze Adam Bekav Shelo, Yoter Mishne Kabim Shel Havero. Ceci s'explique tout simplement par le fait que la personne a travaillé et qu'elle s'est investie dans ce qui lui appartient. L'investissement de sa personne crée un lien sentimental entre l'individu et ce qui lui appartient. Il va en prendre soin et il lui sera difficile de s'en séparer. C'est la raison pour laquelle les Béné Israël, qui s'étaient tellement investis pour donner leur contribution matérielle au Mishkan, attachaient une importance particulière à leur donation. Et c'est ce qui a fait mériter à leur contribution d'être cités en tout début, avant même celle des princes de tribu. Nous en déduisons une règle fondamentale dans l'accomplissement des mitzvot. On ne doit pas dire à son ami « Voici de l'argent, achète pour moi un loulav » ou bien « Voici de l'argent, achète pour moi le nécessaire pour Shabbat ». Au contraire, il faut s'investir nous-mêmes dans ces mitzvot, en l'honneur d'Hachem. Et c'est justement lorsqu'on accomplit la mitzvah par nous-mêmes qu'elle se valorise à nos yeux. À ce moment-là, même Hachem prendra en considération l'effort que cette mitzvah nous a coûté. Nous avons constaté cette merveilleuse attitude chez nos maîtres qui se sont toujours investis pour les préparatifs de Shabbat personnellement ainsi que pour l'accomplissement des mitzvot. Cet investissement personnel les couvrait de la bénédiction pour toute la semaine. Quelques mots sur Shabbat Para. Un point d'alakha. Généralement, selon les années, le Shabbat qui suit Purim s'appelle Shabbat Para. Certaines années, comme cette année, c'est le second Shabbat après Purim qui est le le Shabbat Parah. Nous sortons un deuxième Sefer Torah dans lequel nous lisons le passage relatif à la loi de la vache rousse, la Parah Adouma de Parashat Hukat, qui était offerte en sacrifice et entièrement consumée sur le Mizbeah, sur l'autel. On utilisait les cendres en les mélangeant à l'eau du Beth Amikdash et on purifiait les personnes ou les objets qui avaient contracté Tumat Met, l'impureté mortuaire, en les aspergeant de ce mélange. Rashi explique dans la Gemara Maseret Megillah Daf Chavtet Amud Aleph que pour être autorisé à réaliser le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, il faut impérativement être pur. Il fallait donc mettre en garde Israël avant Rosh Chodesh Nissan afin que chacun puisse offrir son sacrifice de Pessah, son Korban Pessah, en état de pureté, selon l'opinion de nombreux poskim, de nombreux rishonim, de nombreux décisionnaires de l'époque médiévale, ainsi que selon l'opinion de Maran, l'auteur du Shulchan Aruch, d'Aor HaHaim, Siman Tav Resh Pe He Saif Zain, et l'obligation de cette lecture de Parashat Parah est aussi mitzvat aset de Oraita, une ordonnance de la Torah, tout comme celle de Zachor. Les mêmes moyens, mais pas les mêmes objectifs. Contexte. Hachem ordonne à Moshe et à Aaron le commandement de Parah Adouma, la vache rousse. Cette mitzvah consiste à se procurer une vache totalement rousse, sans la moindre imperfection et qui n'a jamais porté de poids. On procédait à la shechita, l'abattage rituel de cette vache, puis elle était complètement brûlée sur le Mizbeah, sur l'autel. Les cendres de la vache étaient ensuite mélangées à de l'eau du Beth Amikdash et toute personne ou objet ayant été au contact ou en présence d'un mort était aspergé de ce mélange et retrouvait leur statut de pur. Ce qui fait du commandement de Parah Adouma de la vache rousse une huka, c'est-à-dire une loi irrationnelle, c'est que justement celui qui aspergeait les personnes ou objets afin de les rendre purs devenait lui-même impur. Il devait lui-même suivre un nouveau processus de Tahara, de purification. Le pasouk nous dit dans Parashat Hukat, Parashat Parah Adouma, Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor, zot Hukat Torah, asher tziva Hashem lemor, daber el bene Israel veikho elecha fara adouma temima. Hashem parla à Moshe et à Aaron en ces termes. Ceci est la Huka, la loi irrationnelle de la Torah. Parle au bene Israël et qu'il prenne pour toi une vache rousse parfaite. Le Midrash Rabbah dit la chose suivante. Pourquoi tous les korbanot, tous les sacrifices sont constitués d'animaux mâles alors que la vache rousse est une femelle? Rabbi Eibo dit, c'est comparable à l'enfant d'une servante qui a sali le palais du roi. Le roi dit, appelez la mère de cet enfant afin qu'elle vienne réparer les dégâts de son enfant. Ainsi, Hachem demande que l'on offre la vache rousse afin qu'elle répare la faute du Hegel, du veau d'or. Le Rav Goldwasser, cité par le livre Yalkut Lekartov, explique qu'il existe un véritable parallèle entre la salissure du veau et le nettoyage de la vache. En effet, la confection du veau d'or, du Hegel, résultat de la transformation de la matière, l'or, en être vivant, le veau, par l'intervention du feu. Alors qu'en parallèle, les cendres de la vache rousse s'obtiennent par un processus contraire, la transformation d'un être vivant, la vache, en matière, les cendres, toujours par l'intervention du feu. Cela signifie que l'on peut tout à fait construire le monde au moyen du feu, mais on peut aussi le détruire par ce même moyen. Il en est de même avec toutes les autres forces et moyens existants dans le monde, qui peuvent être à la fois bénéfiques et nuisibles. Nous ne devons pas faire confiance à la seule compréhension de notre esprit provenant de notre seule vision des choses. La destruction des anciens est en réalité une construction. La construction des jeunes n'est qu'une destruction. Citation de la Gemara Maseret Megillah Daf Lamed Aleph Amud Bet. Il existe une descente qui aboutit vers une ascension et une ascension qui n'est en réalité que la pire des chutes. C'est ce principe que nous apprennent la vache et le veau. La combustion de la vache, que l'on pourrait interpréter comme une destruction, n'est en réalité que la création de la pureté. Alors que la combustion de l'or qui a engendré le veau, que l'on pourrait interpréter comme une création, n'est en réalité que destruction pour le monde. Shabbat Shalom.